en Bresse, où l'on va découvrir comment une statue de Sainte-Catherine fut sauvée par la construction du monument aux morts, une statue que l'on peut admirer aujourd'hui dans l'église du village. Marc Ameil, vous êtes président de l'association du patrimoine de Perrex. Alors, on situe, nous sommes après la Première Guerre mondiale et Perrex, comme toutes les communes, érige un monument aux morts et c'est là que la statue de Sainte-Catherine intervient, entre guillemets.
Donc, nous connaissions deux statues de belle facture dans l'église de Perrex, mais nous n'en connaissions pas l'histoire. Et en 2018, pour le centenaire de la fin de la guerre mondiale, le patrimoine de Perrex s'est intéressé à son monument aux morts et à sa liste de sacrifiés pour l'honneur de la nation. Et alors, à l'occasion de cette enquête, nous sommes allés voir les comptes rendus du conseil municipal, qui sont conservés aux archives départementales. Et là, curieusement, je suis tombé sur un échange de courriers ou d'informations entre le conseil municipal et la préfecture de l'Ain. Car le maire avait envisagé de vendre pour acheter cette statue. Et le contrôle de légalité a fait apparaître que peut-être ce n'était pas opportun. Donc le préfet demande au maire de la commune de quoi s'agit-il. Et c'est comme ça
qu'on découvre
que nous savons que la statue de Sainte-Catherine était placée sur une fontaine qui était sur la place de l'église, à l'endroit même où se trouve maintenant le monument aux morts. Et donc la statue n'a pas été vendue à un particulier. Et alors, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, mais il est fort probable que cette statue qui se trouvait, qui était dite du XVIe siècle, qui se trouvait sur la fontaine publique, ait intégré l'église à cette époque-là, ou réintégré l'église.
Mais c'est la même statue. Ce n'est pas une certitude.
On n'en a pas la confirmation absolue, mais bon, il n'y a pas de raison d'en douter.
Est-ce qu'elle avait été répertoriée dans l'inventaire des biens du clergé, cette statue
alors,
de Sainte-Catherine?
Non, curieusement,
parce que ça peut être
lors
aussi
de
une piste,
la séparation
quand on
de
cherche
l'Église et de l'État, 1905, ne figure absolument pas cette statue, ni d'ailleurs l'autre, en pierre qui est à côté.
Dont on va
et
parler
donc,
tout
on
à l'heure.
Et donc, on ne sait pas pourquoi, comment.
On sait peut-être quand même au moins qui est Sainte-Catherine.
Alors, Sainte-Catherine, ce que l'on sait, c'est que lorsque l'archevêque de Lyon, parce que Perrex dépendait de l'archevêché de Lyon au XVIIe siècle, lorsque l'archevêque de Lyon, il ne fait pas ça tous les ans, mais faisait sa visite pastorale dans le pays, son secrétaire, nous dit qu'il y avait deux petites chapelles dans cette église, une au nord et une au sud. Celle qui est au nord a été construite par les sires de Corsan, qui avait un château dans la commune, et les sires de la Baume-Saint-Amour avaient aussi un autre château sur la partie sud. Et donc, le rapport du secrétaire nous dit qu'il y avait dans ces chapelles un culte à Sainte-Catherine, chez les Corsans, et un culte à Saint-Blaise, chez les Perrex ou Baume-Saint-Amour.
Voilà, donc ça fait quand même des pistes qui confirment.
Par ailleurs, alors ce que nous savons, c'est que dans le château de Corsan, il y avait une famille au XIVe, XVe siècle, bien connue, les Andrevet de Corsan, qui avait affaire avec le duc de Bourgogne et le chancelier Rollin. Et notamment, une grande figure de la famille Corsan, un certain Philibert, a servi d'intermédiaire entre le duc de Savoie et le duc de Bourgogne. Et il a servi l'un et l'autre. Ce qui nous fait penser que cette Sainte-Catherine viendrait de Corsan, de la famille de Corsan, c'est parce que le sculpteur présumé de cette statue était le sculpteur bien connu des ducs de Bourgogne et du chancelier Rollin, qui était évêque d'Autun à l'époque.
Voilà, donc quand on est
voilà, donc,
passionné
on a un faisceau d'indices
voilà.
qui montre que
on est un peu
très vraisemblablement cette Sainte-Catherine était exposée dans la chapelle de Corsan et que pour une raison ou pour une autre, elle en est sortie peut-être à la Révolution. Elle a été posée sur
la
fontaine. Et là, l'expertise qui a été faite récemment, dans les années 80, nous montre que cette statue a vraiment été exposée aux intempéries. Il y a des traces de lichen, il y a des restes de toiles d'araignée. Enfin, il y avait des restes de toiles d'araignée, des morceaux de feuilles, etc., qui montrent qu'elle est restée suffisamment longtemps à l'extérieur, mais pas suffisamment, grâce à Dieu, pour qu'on conserve la polychromie de cette belle statue
justement...
et qu'on sache qu'elle était une statue de style bourguignon.
Voilà. Quelques mots sur cette statue, quelle matière
Alors, c'est un calcaire. Alors, les gens compétents disent que c'est un oolite. On aurait tendance à penser qu'elle vient soit de Dron, dans le pays de l'Ain, soit du côté de d'Anse, Villefranche.
Polychromie.
Alors, polychromie, oui. Donc là, elle a été inventoriée. On sait très bien qu'il y avait une espèce d'engobe, un glacis fait en terre ocre jaune, qui permettait d'étaler, comme il convenait, la peinture sur la statue pour pas qu'elle rentre différemment à un endroit ou à un autre. Parce que le calcaire est poreux, bien sûr.
Peut-être quand même un mot sur Sainte-Catherine.
Alors, Sainte-Catherine, on connaît la légende de Sainte-Catherine, surtout dans sa version, tardive, au XVe siècle, sous la plume de Jacques de Voragine, qui était un dominicain, qui a rassemblé toutes les légendes qui circulaient dans le pays. Donc, on la situe au tournant de la christianisation de l'Empire. On la suppose née en 290 et décédée en 313. Entre deux, elle a fait des études à Alexandrie, ce qui était rare pour une femme à cette époque. Elle était dite fille de roi quand même, donc ça aide. Et lorsqu'elle commence à faire ses études, un peu ambitieuse, elle se promet de trouver le meilleur parti pour elle-même. Et dans un songe qui suit, dans un songe qui suit cette déclaration intime, elle a une vision de Jésus qui lui dit... Non, tu ne peux pas venir avec moi parce que tu n'es pas chrétienne. Donc elle se convertit et elle continue sa vie. Et lorsque l'empereur romain d'Orient fait sa visite à Alexandrie, il tombe sur la Sainte Catherine et il en devient fou amoureux, au point d'abandonner son époux et toute la suite. Et surtout, pour aider à convaincre Catherine de... rester païenne et de l'épouser, il convoque une quarantaine de philosophes et Catherine, dans la dispute, j'utilise à dessein un mot plutôt médiéval, dans la dispute, elle sort vainqueur et les 40 philosophes sont exécutés sur l'ordre de l'empereur Maxence. Bon, et puis après, ça continue. Finalement, pour la convaincre, il la met au cachot, il ne se passe rien, elle est toujours d'une forme extraordinaire. Il fait préparer une roue pour la faire exécuter, une roue dentée.
Oui, ben ne rentrez pas trop dans les détails du supplice.
Puis, au moment fatidique, les anges de l'Éternel font éclater la roue dans toutes les sens. Ouais. Donc il ne reste plus que le glaive. C'est pour ça que la statue de Sainte-Catherine est toujours représentée avec une roue dentée et un glaive.
Voilà. Et on fête Sainte-Catherine au mois de novembre, et c'est à ce moment-là qu'il faut planter les arbres.
Peut-être.
Voilà, et donc on peut voir une statue remarquable de Sainte-Catherine en l'église de Pérex. Peut-être un mot quand même sur une autre statue que vous avez signalée, voilà. Qui est en pierre,
la
statue
donc, de la Sainte Vierge. La statue elle-même, c'est pour ça que ça vaut le détour. Mmh. Donc j'invite tous ceux qui ont le temps et le loisir et l'intérêt de le faire, de visiter cette église de Pérex, parce que vous trouvez deux belles statues de style bourguignon. Dans la manière du rendu des cheveux, de l'habit, notamment, vous avez d'un côté Sainte-Catherine, mais de l'autre côté, vous avez une statue de la Vierge. Et là, je vous disais à l'instant que celle-ci venait de Bourgogne parce qu'il y avait des liens entre la famille Andrevet de Corsan et la famille du chancelier Rollin. De l'autre côté, on a une statue qui n'est pas exactement de la même manière d'être exécutée, mais qui ressemble beaucoup à une autre statue qui se trouve à Autun, une petite statue de la Vierge, et qui est une reproduction d'une autre statue qui est à Auxonne. Donc on est bien dans le même
périmètre.
Bassin. Voilà, donc deux très belles statues du 15e, plutôt milieu du 15e jusque fin 15e. Les datations peuvent varier suivant les auteurs.
Merci Marc Ameille, vous êtes donc président de l'association Patrimoine de Pérex et vous nous invitez à pousser la porte de l'église pour voir entre autres ces deux statues.